France Musique.
Mon cœur est un violon, sur les traces des grandes violonistes.
Marina Chiche, France Musique.
Bonjour, ravie de vous retrouver pour notre grande série estivale sur France Musique autour des grandes violonistes du passé. Dans l'épisode précédent, je vous avais présenté la pépinière de talents qui éclot à Budapest dans la classe du grand professeur hongrois Jenő Hubay au début du XXe siècle. Dans l'entre-deux-guerres et pendant la Deuxième Guerre mondiale, les choses vont sérieusement se compliquer pour nos violonistes. Elles vont être prises dans la tourmente. La petite et la grande histoire se rencontrent, le privé et le politique se mêlent, et nos artistes se retrouvent face à des cas de conscience, des dilemmes, des situations inextricables et tragiques. Aujourd'hui, je veux vous raconter quelques-uns de ces destins exceptionnels et complexes qui font de nos violonistes des héroïnes et parfois même des anti-héroïnes. Ce sont des destins qui se croisent et résonnent. D'Europe en Asie, du Japon à la Russie, en passant par les États-Unis, nous allons sacrément voyager, alors attachez vos ceintures. Ouvrons le bal avec deux violonistes qui se prénomment Alma, deux destins en miroir. Nous sommes à Vienne en 1926, le 16 décembre. Alma Rosé se prépare nerveusement dans la loge de la grande salle du Musikverein de Vienne. Elle vient tout juste d'avoir 20 ans, elle est sur le point de faire ses débuts très attendus dans la capitale. En effet, elle vient d'une famille de grands musiciens, au croisement de deux dynasties. Sa mère, Justine, est la sœur du compositeur Gustav Mahler. Son père, Arnold, est le premier violon du célèbre Quatuor Rosé et le Concertmeister de l'Orchestre de l'Opéra de Vienne. Alma va justement jouer le double concerto de Bach avec son père. C'est son rêve d'enfance qui se réalise, mais quelle pression sur ses épaules!
Thank you.
France Musique, nous écoutions le troisième mouvement, Allegro assai, du double de Bach, avec une extraordinaire cadence du violoniste autrichien Josef Helmesberger, une cadence assez improbable, je dois dire, et que l'on ne joue plus. Au violon, Arnold et Alma Rosé, le père et la fille. C'est un enregistrement qui date de 1928, moins de 2 ans après les débuts d'Alma Rosé à Vienne. À cause de la renommée de son père dans la capitale, Alma est donc très attendue par les critiques viennois. C'est une fille d'eux, et dans la presse, on la compare, à son désavantage, à la prodigieuse Erika Morini. Pourtant, Alma et Erika sont de bonnes copines. Elles se connaissent depuis l'enfance, elles ont fait les 400 coups ensemble. Elles ont toutes deux étudié à Vienne, chez le maître tchèque Otokar Shevchik. D'origine juive, les parents d'Alma et d'Erika ont pris soin de changer de patronyme dès le tournant du siècle. Morini pour Morgenstern, Rosé pour Rosenblum. Et pour accéder à des postes officiels, il a aussi fallu se convertir. Dans le cercle des Rosés, on trouve plusieurs compositeurs. Deux étudiants d'Arnold Schönberg, Alban Berg et Anton Webern. Il y a aussi un jeune prodige exceptionnel, Erich Korngold, et un certain Ernst Krenek. Krenek est un peu de la famille. Il a été brièvement marié à Anna Mahler, la fille du compositeur, autrement dit la cousine d'Alma Rosé. Quelques semaines après les débuts d'Alma à Vienne, Ernst Krenek obtient lui un grand succès avec la création à Leipzig, en février 1927, de son opéra aux accents jazz intitulé « Johnny spielt auf ». L'opéra sera repris plus de 400 fois dans toute l'Allemagne dès la première saison. Ce sera un opéra culte de la République de Weimar. Le livret est de Krenek lui-même. C'est une histoire assez improbable qu'il écrit en plein tourment sentimental. À peine sorti de son divorce avec Anna Mahler, il vient de vivre une histoire passionnelle et de courte durée avec une violoniste virtuose qui lui a brisé le cœur. Elle se prénomme, je vous le donne en mille, Alma. Comme par hasard dans l'opéra, il est question d'un compositeur, Max, d'un violoniste jazz afro-américain, Johnny, d'un violoniste virtuose séducteur, Daniello, et d'une chanteuse d'opéra frivole, Anita. Pas vraiment besoin d'être psychanalyste pour deviner que Krenek puise son inspiration dans sa propre vie. Krenek aurait immortalisé certains aspects de la personnalité de la violoniste Alma Moody dans le personnage d'Anita dans son opéra Johnny spielt auf. Dans ses écrits, Krenek, amant et conduit, laissera de la violoniste une image de femme perdue. Il insinue qu'elle était prête à tout, notamment avec ses mécènes. Alma Moody est née en 1900 en Australie. Venue étudier en Europe, elle est devenue l'élève préférée du grand professeur Karl Flesch. Dans les années 1920, elle s'est installée en Allemagne où elle fait une carrière remarquable en suscitant la création de plusieurs œuvres. Par exemple, Igor Stravinsky arrange pour elle la suite italienne extraite de Pulcinella pour violon et piano, œuvre qu'il joue avec elle. Plusieurs concertos lui sont dédiés, comme le concerto de Paul Hindemith, celui de Krenek, mais aussi le redoutable concerto d'Hans Pfitzner. Thank you. France Musique, la fin du concerto pour violon de Hans Pfitzner, enregistré en concert en 1955 avec l'orchestre de la radio berlinoise, dirigé par Rudolf Kempe, avec en soliste le violoniste allemand Gerhard Tachner. Malheureusement, il n'existe aucune trace discographique d'Alma Moody. En 1933, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les choses s'accélèrent. Son ministre de l'éducation du peuple et de la propagande, Joseph Goebbels, s'occupe très activement de la culture et des musiciens. Krenek est alors considéré par les nazis comme un bolchévique culturel. Ses œuvres sont interdites dans le Reich, puis sa musique est qualifiée de dégénérée. Krenek émigrera en 1937. Dès 1935, c'est aussi le professeur d'Alma Moody, Karl Flesch, qui est démis de ses fonctions à cause de ses origines juives. Il doit s'exiler. Pour d'autres, au contraire, la situation est bien plus favorable. Hans Pfitzner, lui, devient un des compositeurs officiels du régime. Alma Moody joue d'ailleurs son concerto plus de 50 fois en Allemagne avec des chefs tels que Wilhelm Furtwängler ou Hans Knappertsbusch. D'ailleurs, le mari d'Alma Moody, un avocat allemand, travaille pour le régime nazi. Mais pendant ce temps-là, que devient notre autre Alma ? En 1932, Alma Rosé a créé à Vienne un orchestre de chambre entièrement féminin, les Wiener Walzermädel. Les jeunes femmes, habillées de robes à froufrou, font revivre avec grand succès la magie de la Vienne d'antan. Au programme, des valses de Strauss, de Lehár, et puis quelques numéros où Alma brille dans ses solos. Par exemple, dans cette mazurka d'Henryk Wieniawski. Violoniste Ida Haendel en concert à Prague en 1962, accompagnée par le pianiste Alfred Holecek dans une mazurka très enlevée d'Henryk Wieniawski. Pendant que les jeunes filles de l'ensemble de la violoniste Alma Rosé enchantent le public et alimentent la nostalgie de la Vienne impériale, l'étau hitlérien se resserre autour de la capitale autrichienne. Du côté de sa vie privée, Alma Rosé a divorcé en 1935 du violoniste virtuose tchèque Vacha Prihoda, un virtuose à la Paganini. Quant à sa famille et à son entourage proche, il ne croit pas qu'Hitler et sa bande puissent rester longtemps au pouvoir. Pourtant, plusieurs musiciens se sont déjà exilés aux États-Unis dès 1933. Après l'assassinat sauvage du chancelier autrichien Dollfuss et l'absence de réaction des autres pays, toutes les digues ont sauté. En 1938, c'est l'Anschluss. L'Allemagne annexe l'Autriche. Le frère d'Alma et sa femme partent aux États-Unis. Justine, sa mère, meurt le même été. Alma, restée à Vienne, seule à s'occuper de son père, réussit finalement à organiser leur fuite et à rejoindre Londres en 1939. Elle revient pourtant sur le continent pour donner des concerts au Grand Hôtel Central de La Haye. Il faut bien gagner de l'argent. Mais quand l'Allemagne envahit la Hollande, elle se retrouve prise au piège. Un faux mariage et les papiers de sa conversion ne réussissent pas à la mettre à l'abri. Elle fuit vers la France, mais à la fin 1942, alors qu'elle essaye de rejoindre la Suisse, elle est arrêtée par la Gestapo. Après plusieurs mois d'internement à Drancy, elle est déportée à Auschwitz en juillet 1943, dans le convoi 57. À l'été 1943, Alma Rosé arrive dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Elle porte le matricule 50381. On lui confie assez vite la direction d'un orchestre de femmes, le Mädchenorchester von Auschwitz, composé principalement d'amateurs. Ces femmes jouent matin et soir pour le départ et le retour des déportés qui vont travailler, ainsi que lors de concerts qui visent à divertir les SS. Alma impose à ses musiciennes une exigence incroyable. Pour elle, c'est clair. Si elles ne jouent pas correctement, elles seront gazées. En remplissant leur journée de répétition, Alma évite aux membres de son orchestre les travaux forcés et réussit à leur obtenir des rations supplémentaires. C'est aussi une manière de garder ensemble une dignité qui leur permet de tenir. Pendant ce temps-là, Alma Moody, elle, est à Francfort, déprimée et délaissée par son mari qui ne soutient plus sa carrière. En mars 1943, lors d'un raid aérien sur Francfort, la violoniste prend un mélange d'alcool et de somnifères qui lui est fatal. C'est sans doute un suicide. Celle que Carl Flesch qualifia dans ses mémoires comme étant sa meilleure élève meurt à 44 ans et tombe dans l'oubli. Aucun enregistrement d'elle et comme seul témoignage les propos peu flatteurs de Krenek et cette ombre immense jetée sur sa carrière à cause de ses sympathies politiques. Pour Alma Rosé, à Auschwitz, tout s'arrête brutalement dans la nuit du 4 avril 1944. Alma est emportée par une maladie soudaine, peut-être une intoxication alimentaire ou un empoisonnement. Elle a 37 ans. Une fin tragique pour une violoniste qui, avec son violon et son exigence parfois extrême, aura sauvé la vie d'une cinquantaine de co-détenues qui ont presque toutes survécu au camp de concentration.
Mon cœur est un violon, Marina Schisch, France Musique.
La grande histoire et la politique ont parfois des conséquences inattendues sur l'histoire des violonistes et la diffusion des écoles de violon. Par exemple, la Hongroise Ilona Feher, une élève de Jenő Hubay à Budapest, arrivera à s'échapper d'un camp de concentration. En 1949, elle ira s'installer en Israël, où elle deviendra la mère fondatrice de toute l'école israélienne, qui produira des violonistes exceptionnels comme Pinchas Zukerman, Shmuel Ashkenazi ou Shlomo Mintz. Ce phénomène de globalisation, on pourrait dire, a toujours existé. Ainsi, en 1915 à Saint-Pétersbourg, une élève du professeur Leopold Auer, Anna Bubnova, se marie avec un étudiant japonais. Ils fuient ensemble la révolution. Quand ils arrivent au Japon, Anna s'étonne de voir que les Japonais ne commencent l'étude du violon que tardivement. On est bien avant la fameuse méthode Suzuki. Âgée de 25 ans, Anna Bubnova fonde alors une école et va former au berceau des générations de violonistes japonais, notamment une certaine Nejiko Suwa. Née en 1920, Nejiko fait des débuts de prodige. Elle enregistre dans les années 30 alors qu'elle a à peine 13 ans. La professeure Anna Bubnova fait entendre sa jeune prodige aux artistes étrangers de passage au Japon, notamment à Ephraim Zimbalist, un ancien de chez Leopold Auer. Il est très impressionné par la technique impeccable de la jeune fille. Fiorillo par la violoniste japonaise Nejiko Suwa, un enregistrement de 1933. Nejiko n'a pas 13 ans. À la fin des années 30, Nejiko part en Europe pour poursuivre ses études, notamment à Paris, où elle décide de rester malgré les débuts de la Deuxième Guerre mondiale. Elle va alors bénéficier d'une attention particulière de la part des politiques. En septembre 1940, le Japon forme une alliance militaire avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Joseph Goebbels va alors offrir à Nejiko Suwa un Stradivarius. L'image de propagande est trop belle, une violoniste japonaise qui reçoit du ministre allemand un magnifique violon italien. Gicov est une ambassadrice idéale pour incarner l'axe Rome-Berlin-Tokyo. C'est ce que l'on appelle du soft power ou de la diplomatie culturelle. Bien sûr, la provenance du violon est pour le moins douteuse. Il y a de forts soupçons que ce violon ait été spolié à des musiciens juifs, comme cela fut souvent le cas. Quand Paris est libéré en 1944, Nejiko Suwa s'enfuit à Berlin en train. Un trajet infernal, interrompu par des raids aériens. La jeune femme doit à plusieurs reprises sauter du train et se cacher sous des arbres alentour. Elle ne se sépare pas une seconde de son violon, de jour comme de nuit. Elle rejoint enfin l'ambassade du Japon à Berlin et en avril 1945, quand le corps diplomatique est évacué, elle fuit vers les Alpes autrichiennes. Mais elle est capturée par les forces américaines et envoyée sur un transatlantique vers New York où elle arrive en août 1945. Les 6 et 9 août, les États-Unis ont lancé des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le Japon finit par se rendre. Nejiko est alors détenue dans un hôtel en Pennsylvanie pendant plusieurs mois avec d'autres membres du corps diplomatique japonais. Ils sont tous mis sur écoute. En décembre 1945, elle peut enfin rentrer avec sa boîte de violon serrée fort dans ses bras, dans un Japon dévasté. Une lamentation indienne de Dvorak arrangée par Fritz Kreisler avec la violoniste japonaise Nejiko Suwa. Une carrière entachée par cette ombre du Stradivarius sur lequel la violoniste refusera toujours de s'exprimer et qui alimentera de nombreux fantasmes, jusqu'à récemment d'ailleurs. Aux dernières nouvelles, le Stradivarius serait en fait un faux. Nejiko Suwa aura été la première d'une série de violonistes japonaises à percer à l'international, des violonistes formés par la professeure russe Anna Bubnova, une véritable pionnière. D'ailleurs, pour l'anecdote, au Japon, on l'appelle Anna Ono du nom de son mari. Oui, vous avez bien entendu, Ono. Je vous le donne en mille. Par alliance, c'est la tante de la future femme de John Lennon, Yoko Ono, dont elle assurera aussi la formation musicale. Bon, revenons à nos violonistes japonaises, car j'aimerais vous en présenter une autre merveilleuse. Elle s'appelle Mari Iwamoto. Elle est née en 1926 d'un père japonais et d'une mère américaine. À l'école au Japon, elle est d'ailleurs chahutée à cause de cela. mais elle s'accroche et travaille avec acharnement son violon auprès d'Anna Bubnova. Enfant prodige, elle remporte le concours du Japon à 11 ans. Elle est présentée comme la nouvelle Nejiko Suwa. Mari Iwamoto fait des débuts très prometteurs à Tokyo, mais avec le début de la guerre, elle reste au Japon. Elle joue alors dans les usines, hôpitaux et bases militaires. Les conditions sont extrêmes. Pour se rendre sur les lieux de concert, les trains sont bondés quand ils circulent. On raconte qu'une fois, elle fit plus de 20 km à pied pour se rendre à son propre concert, où elle joua dès son arrivée, en pantalon, les pieds en sang. Sur France Musique, la romance en sol majeur de Beethoven par la violoniste Mari Iwamoto et l'orchestre symphonique de Tokyo dirigé par Hideo Saito. Un enregistrement de 1944. Pendant la Deuxième Guerre, Mari Iwamoto sera aussi soupçonnée, comme d'habitude, d'être une espionne puisqu'elle est à moitié américaine. Pourtant, à la fin de la guerre, la vie musicale reprend au Japon et en 1946, à seulement 20 ans, elle est nommée professeure à l'Académie de Tokyo. L'expérience va être compliquée. Ses élèves ont presque le même âge qu'elle, elle n'a pas vraiment enseigné jusqu'alors et ses collègues, plus âgés, ne lui rendent pas la vie facile. Alors, en 1949, elle part sous prétexte d'une année sabbatique aux États-Unis, une période fructueuse. À son retour, elle reprend sa carrière de soliste de plus belle et fonde l'excellent Mari Iwamoto Quartet. Lors de son séjour aux États-Unis en 1949, c'est auprès de Louis Persinger qu'elle était allée se perfectionner. Persinger, professeur très célèbre, était connu comme faiseur de prodiges. Il avait déjà formé Yehudi Menuhin, Ruggero Ricci et une certaine Guila Bustabo. Thank you. Le cinquième caprice de Paganini, interprété par la violoniste américaine Guila Bustabo. La dernière de nos héroïnes, ou peut-être anti-héroïne du jour. Née en 1916 dans le Wisconsin, Guila Bustabo fait des débuts de prodige dès l'âge de 4 ans. À 9 ans, elle joue avec l'Orchestre symphonique de Chicago. Sa mère Blanche, très présente, l'emmène étudier auprès de Louis Persinger à New York. Persinger s'occupe activement de lancer la carrière de ses jeunes talents. Il accompagne d'ailleurs Guila au piano dans ses débuts en récital au Carnegie Hall devant un auditoire qui comprend Arturo Toscanini. Elle a 16 ans. À 18 ans, elle part en tournée en Angleterre, en Europe et en Asie. À Londres, c'est une jolie histoire qui lui arrive. Pour ses concerts, une fondation anglaise lui prête un magnifique Guarnerius del Gesù. Son récital de début à Londres fait sensation. Quelques jours plus tard, elle est invitée avec sa mère à une réception chez l'aristocrate britannique Lady Ravensdale. Mais Guila n'est pas d'humeur à faire la fête. Elle a le cœur lourd à l'idée de devoir rendre le sublime violon. Elle est murée dans son silence jusqu'au moment où l'hôtesse de la soirée l'informe qu'elle peut non seulement garder le violon, mais qu'il lui a été acheté par la baronesse elle-même et un groupe de musiciens dont Toscanini et Fritz Kreisler. C'est le rêve. La jeune virtuose retrouve le sourire. France Musique, le tempérament de feu de la violoniste américaine Guila Bustabo dans le Zapateado de Pablo de Sarasate. Guila se rend ensuite en Europe et se perfectionne auprès de Georges Enesco à Paris, puis Yene Hubay à Budapest. En 1939, au début de la Deuxième Guerre, au lieu de rentrer aux États-Unis, elle reste avec sa mère en Europe. Elle commence une liaison avec le compositeur italien Ermanno Wolf Ferrari, qui devient son mentor. Il a 40 ans de plus qu'elle. Wolf Ferrari, inspiré par sa jeune muse, lui écrit un concerto flamboyant qu'elle crée en 1944 à Munich. Sur France Musique, un extrait du premier mouvement, Fantasia, du concerto de Wolf Ferrari. Un concerto écrit pour la violoniste Guila Bustabo, ici accompagnée par l'Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise, dirigé par Rudolf Kempe, en 1972. Durant la guerre, Guila joue en Allemagne et dans les territoires occupés, sous la direction du chef néerlandais Wilhelm Mengelberg. La création du concerto de Wolf Ferrari à Munich en 1944 est d'ailleurs donnée sous la direction du chef nazi Oswald Cabasta. À la sortie de la guerre, Guila est arrêté à Paris. Ses concerts dans les pays de l'Axe et ses fréquentations nazies lui sont reprochées. Lors du processus de dénazification, Mengelberg se verra interdit de concert aux Pays-Bas pendant 5 ans. Cabasta, convaincu de ne plus jamais pouvoir diriger, se suicidera. Mais les charges contre Guila Bustabo sont abandonnées, faute de preuves. Cependant, sa carrière est définitivement compromise aux États-Unis où de nombreux orchestres refusent de l'accompagner. Elle continue toutefois à se produire en Europe durant les années 1950 et 60 et enseigne en Autriche à partir de 1964. Atteinte de troubles bipolaires, elle rentre finalement aux États-Unis avec sa mère et son mari. Elle se retrouve alors à jouer au fond de la section des violons de l'Orchestre symphonique d'Alabama. Une trajectoire tragique pour une virtuose absolument exceptionnelle. Il nous reste d'elle notamment un enregistrement d'anthologie du concerto de Sibelius. Sibelius, qui après l'avoir entendue en 1937, disait qu'elle jouait son concerto comme il l'avait imaginé lorsqu'il l'avait composé. Le final est absolument ébouriffant. La presse allemande disait de la violoniste Guila Bustabo qu'elle avait de la dynamite dans les veines. Thank you. Sur France Musique, une version extraordinaire du final du concerto de Sibelius par la violoniste américaine Guilla Bustabo en 1940 avec la Staatskapelle de Berlin dirigée par Fritz Sahorn. Destin brisé que celui de Guilla Bustabo, enfant prodige qui ne réussit jamais à s'émanciper de la présence de sa mère et dont la carrière fut compromise sans doute par une forme de naïveté politique. Heureusement, il existe des exemples d'autres violonistes prodiges qui ont réussi à passer le cap et qui ont traversé le XXe siècle en devenant des violonistes reconnus à l'égal de leurs collègues masculins, au moins de leur vivant. Je pense à Erika Morini et Gioconda De Vito. C'est justement de ces grandes dames du violon que je vous parlerai dans le prochain numéro. Merci à l'équipe de l'émission, Françoise Cordet, Valentin Carpentier et Emmanuel Morse d'Incan. Cet épisode est disponible à la réécoute, quand vous le souhaitez, sur le site de France Musique. Je vous dis à dimanche prochain à 17h.
Mon cœur est un violon.
À réécouter sur francemusique.fr.